Universel, Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le monde aujourd'hui, édition du 21 octobre 2014, en direct du studio 13, ici à Washington. Timothée Donangmaï et Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Timothée, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, au Burkina Faso, Blaise Compaoré veut un référendum sur la modification de la Constitution. L'opposition dénonce.
Fin du procès Pistorius en Afrique du Sud, l'athlète paralympique a été condamné à 5 ans de prison ferme.
Le Nigeria espère la libération prochaine des lycéennes enlevées par Boko Haram.
En Irak, au moins 21 morts dans une série d'attaques à Bagdad.
Et nous aurons aussi les sports et de la musique en fin d'émission, mais tout d'abord le journal.
Nous ouvrons au Burkina Faso, où un conseil extraordinaire des ministres a décidé d'introduire un projet de loi à l'Assemblée nationale pour convoquer un référendum sur la modification de l'article 37 de la Constitution, limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. Si ce dernier verrou saute, il permettra au président Blaise Compaoré de se représenter. Nous reviendrons sur ce sujet dans notre partie magazine.
Le ministère nigérien des Affaires étrangères, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Aminu Wali, espère la libération prochaine des lycéennes enlevées par le groupe islamiste Boko Haram. Bagasikoura.
Le ministre Aminu Wali dit espérer avec un optimisme prudent la libération dans un avenir très proche de plus de 200 lycéennes enlevées par le groupe islamiste Boko Haram. Il s'exprimait à Berlin à l'issue d'une réunion avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier. L'armée et la présidence nigérienne avaient annoncé vendredi avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec le groupe islamiste armé Boko Haram, prévoyant notamment la libération des jeunes filles enlevées le 14 avril à Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Mais la réalité du cessez-le-feu a cependant été mise en doute par des témoignages faisant état d'attaques meurtrières de Boko Haram dans le nord-est du pays.
Oscar Pistorius, condamné à 5 ans de prison, il a été reconnu coupable du meurtre involontaire de sa petite amie Reeva Steenkamp en février 2013. Nicolas Pinault.
Le sportif a été emmené en prison à la sortie de l'audience. Le procureur avait requis 10 ans de prison contre le champion d'athlétisme de 27 ans. La défense, mettant en avant son handicap, demandait une peine d'arrêt domiciliaire assortie d'un travail d'intérêt général. Le juge a récusé cette demande, estimant qu'un travail d'intérêt général ne serait pas approprié. La famille d'Oscar Pistorius accepte le jugement, c'est ce qu'a déclaré l'oncle de l'accusé devant la presse. « Nous étions déçus par le verdict d'homicide involontaire, nous n'avons pas décidé si nous allons faire appel ou non », a répondu pour sa part le porte-parole du parquet, Natine Koubé. La famille de la victime, Reeva Steenkamp, s'est quant à elle déclarée satisfaite de la peine.
Le monde se mobilise face à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. C'est comme une course contre la mort qui est engagée, Idriss Fall.
L'ONU a mis sur pied une mission spéciale et évalue à 1 milliard de dollars les besoins sur 6 mois. Jusque-là, moins de 40% ont été recueillis. L'Union européenne a promis au moins 500 millions d'euros et offre des garanties d'évacuation sanitaire aux humanitaires infectés. La Banque mondiale a presque doublé son aide d'urgence de 230 à 400 millions de dollars. Le FMI débloque 130 millions de dollars et la BAD 225 millions de dollars. Les États-Unis se sont engagés à hauteur de 350 millions de dollars et vont déployer plus de 3000 soldats en Afrique de l'Ouest pour former le personnel sanitaire et mettre en place des laboratoires médicaux mobiles. La Grande-Bretagne a envoyé un navire médicalisé et prévoit déployer 750 militaires. Médecins sans frontières en première ligne a ouvert 6 centres de traitement avec près de 3000 volontaires et l'OMS promet qu'un vaccin expérimental pourrait être disponible en janvier prochain.
La Sierra Leone a décidé de ne pas envoyer 850 militaires qui devaient relever un contingent participant à la force de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, en raison d'Ebola. C'est ce que rapporte l'AFP, citant le chef du bataillon à Freetown, le lieutenant-colonel Mahmoud Bangoura.
Toujours en rapport avec l'épidémie d'Ebola, sachez aussi que tous les passagers en provenance de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone qui viennent ici aux États-Unis devront utiliser un des 5 aéroports effectuant des contrôles serrés en rapport avec l'Ebola. Il s'agit de l'aéroport JFK à New York, celui de New York dans le New Jersey, Dallas près de Washington, Hartsfield à Atlanta et O'Hare à Chicago. La mesure a été annoncée aujourd'hui par le secrétaire américain à la sécurité intérieure, Jay Johnson.
Le troisième round de négociations entre Bamako et les groupes armés maliens s'est ouvert à Alger avec l'objectif d'amener la paix dans le nord du Mali. Le gouvernement malien et six mouvements armés du nord ont signé en juillet à Alger une feuille de route pour des négociations de paix. Le nouveau round de pourparlers, dont la médiation est assurée par Alger, se déroule en présence des parties maliennes impliquées dans les négociations de fond et globales, a déclaré le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamra.
Le Congolais Mathieu Ngoudjolo Tchui a réaffirmé mardi son innocence lors de l'audience de la Cour pénale internationale consacrée à l'appel interjeté par le procureur après l'acquittement en 2012 de cet ancien chef présumé d'une milice. Mathieu Ngoudjolo Tchui avait été acquitté de crimes contre l'humanité et crimes de guerre faute de preuves suffisantes. Cependant, à l'audience d'aujourd'hui, le bureau du procureur a affirmé que cet acquittement avait constitué un déni de justice. Mathieu Ngoudjolo était accusé d'avoir voulu, en collaboration avec une autre milice, effacer totalement la population du village de Bogoro, dans l'Ituri. L'attaque avait eu lieu le 24 février 2003 et avait causé la mort d'environ 200 personnes.
Un tribunal militaire égyptien a condamné à mort sept membres d'un groupe djihadiste pour leur implication dans des attaques meurtrières contre l'armée, selon un responsable militaire. Deux autres membres de ce groupe ont été condamnés à perpétuité. Les prévenus jugés ce mardi ont été notamment reconnus coupables de la mort de deux officiers et six soldats.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, une série d'explosions ce matin à Bagdad a fait au moins 21 morts. Le premier ministre irakien Haïdar al-Abadi et son ministre de la Défense ont lancé une enquête afin de restructurer l'armée. Les précisions de Félix Yepassi Zembro.
12 personnes ont été tuées dans le nord de Bagdad, dans le quartier de Talibiya, quand une voiture piégée a explosé juste en face d'un restaurant. D'autres bombes ont ensuite suivi, l'une en pleine rue, une autre dans le quartier de Sheikh Omar. Les estimations font état de 21 morts, mais le bilan risque de s'alourdir. Depuis le mois dernier, la capitale irakienne a connu une multiplication d'attentats, en grande partie revendiqués par l'État islamique. Depuis début juin, ce groupe contrôle une partie du pays, dont Mossoul, la deuxième ville du pays. L'armée irakienne n'a pas su résister à l'offensive des djihadistes et a abandonné un vaste territoire ainsi que de nombreuses armes et véhicules fournis par les États-Unis. Selon le gouvernement irakien, le principal fléau de l'armée est la corruption. Le ministre de la Défense a fait savoir qu'il demandera des comptes à ceux qui ont commis des erreurs ou manqué à leurs devoirs. Le premier ministre Haïdar al-Abadi avait déjà limogé des officiers supérieurs lors de sa prise de fonction en septembre.
Les forces kurdes défendant la ville syrienne de Kobané attendaient les renforts ce mardi après avoir résisté à un nouvel assaut des djihadistes du groupe État islamique. Les combats semblent avoir baissé d'intensité dans cette ville kurde frontalière de la Turquie après une attaque lundi soir de l'État islamique menée entre autres par deux kamikazes, ont indiqué des témoins et l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres. La Turquie a précisé qu'aucun combattant kurde irakien n'avait encore passé la frontière pour entrer en Syrie à partir de son territoire. Ankara avait dit hier qu'elle autoriserait les renforts de combattants Peshmerga à rejoindre la ville syrienne assiégée via son territoire.
Au moins 5 Britanniques partent chaque semaine en Irak ou en Syrie pour rejoindre les rangs du groupe État islamique, une estimation avancée aujourd'hui par le chef de la police britannique, Bernard Hogan Howe. Au total, ce sont plus de 500 Britanniques qui sont en train de combattre dans le conflit du Moyen-Orient et beaucoup vont vouloir faire de même dans les mois et peut-être les années à venir, a-t-il souligné, ajoutant qu'à leur retour, ces personnes constitueraient un risque pour les communautés locales.
La Russie a ouvert une enquête sur la mort hier soir à Moscou du patron de la compagnie pétrolière française Total. Christophe de Margerie, 63 ans, a été tué dans un accident sur la piste de l'aéroport international Vnukovo quand son avion privé qui découlait en direction de Paris a percuté un chasse-neige. Des experts français vont se joindre à l'enquête qui s'appuie maintenant sur la thèse d'une négligence criminelle.
L'Ukraine a demandé aux Européens un prêt additionnel de 2 milliards d'euros, une somme que lui réclame la Russie d'ici fin octobre pour reprendre ses livraisons de gaz suspendues en juin, a indiqué mardi la Commission européenne. À Bruxelles se poursuit une rencontre UE-Ukraine-Russie pour garantir l'approvisionnement de l'Ukraine et des Européens en gaz russe cet hiver.
Libération d'un des trois Américains emprisonnés en Corée du Nord. Jeffrey Fowle est déjà en route pour les États-Unis, ont indiqué les responsables américains. Fowle a été arrêté cette année après avoir laissé une Bible dans un bar-restaurant en Corée du Nord. Il n'a pas été jugé. Les deux autres prisonniers arrêtés dans des cas différents, Matthew Miller et Kenneth Bay, purgent des peines de 6 et 15 ans respectivement.
Voilà pour le journal. Il est 19h40 à Universel, 15h40 ici à Washington. Je suis Ruben Dorcil et Timothée Donangmaï en votre compagnie. Restez branchés pour nos dossiers du jour.
La semaine passée déjà, les bruits.
Au Burkina, la modification de la constitution par voie référendaire, telle a été la grande décision prise par le gouvernement burkinabé, réuni ce mardi en conseil extraordinaire des ministres. Ce qui n'était qu'une velléité est donc devenu une réalité, assure l'opposition. Reportage de Zoumana Wonogo. Nous avons quelques difficultés techniques. On espère entendre Zoumana Wonogo d'ici quelques instants. Signalons Timothée Donangmaï que c'est un sujet qui a pratiquement divisé le Burkina et qui a provoqué pas mal de remous au sein de l'opposition. Passons à Côte d'Ivoire. Le procès de l'ancienne première dame Simone Gbagbo, qui devait s'ouvrir formellement demain, pourrait ne pas démarrer avant la mi-novembre pour des questions de procédure. Et on nous fait signe que nous pouvons maintenant entendre Zoumana Wonogo.
La semaine passée déjà, les bruits avaient couru concernant ce projet de loi de modification de la Constitution. Et voici ce que nous avait confié le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw.
Le chef de l'État a souhaité que les membres du gouvernement puissent se retrouver autour de lui pour échanger un peu sur la situation nationale. Donc il n'y a rien de
particulier.
Mais simplement, je vous inviterai à un conseil des ministres extraordinaire qui aura lieu mardi prochain. Peut-être que vous en saurez plus.
Effectivement, on en sait plus sur la volonté du gouvernement de modifier la Constitution. Voici l'annonce avec Jérôme Bougouma, le ministre de la Sécurité.
En application du titre 15 de la Constitution, le Conseil extraordinaire des ministres a adopté un projet de loi portant révision de la Constitution qui sera soumis à l'Assemblée nationale en vue de la convocation du référendum. La procédure du titre 15 veut que, sur la base de l'article 161, un projet soit adopté et soit soumis obligatoirement à l'Assemblée nationale sur la base de l'article 163 de la Constitution.
Comment l'opposition réagit-elle face à cette donne de modification de la Constitution? On écoute à chaud Maître Benewende Sankara, le président du Front progressiste sankariste.
Ce que nous avons tout de suite retenu, c'est qu'il y a eu une reculade de la part du gouvernement, en ce sens que des caciques pensaient que le chef de l'État pouvait directement consulter le peuple par voie référendaire sur la modification de l'article 37. Il se trouve que cette fois-ci, c'est un passage obligé d'aller à l'Assemblée nationale. Donc, nous aviserons avec l'Assemblée nationale. Ensuite, ce n'est pas surprenant en ce sens que quand nous avons été à ce fameux semblant de dialogue, nous n'avons pas manqué de dire qu'il y avait un agenda caché. Aujourd'hui, c'est la preuve manifeste, bien sûr, de ce que l'agenda caché s'est révélé, c'est-à-dire l'intention qui était une velléité du pouvoir de tripatuer la Constitution s'affirme de plus en plus. Mais l'opposition politique va se battre, ça au moins c'est sûr et certain, avec le peuple burkinabé. Et avec ce peuple-là, nous allons voir si à l'Assemblée nationale, les députés vont aller dans le sens de ce que le peuple veut, ou aller dans le sens des intérêts de quelqu'un.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, la voix de l'Amérique.
La voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya, et Fada.
En Côte d'Ivoire, le procès de l'ancienne première dame Simone Gbagbo, qui devait s'ouvrir formellement demain, pourrait ne pas démarrer avant la mi-novembre pour des questions de procédure. Plus de 80 personnes, dont l'ancienne première dame, comparaissent pour leur rôle présumé dans la crise post-électorale de 2010-2011. Les partisans de Mme Gbagbo et ses avocats dénoncent depuis le début un procès politique que ces derniers retards ne font que confirmer selon eux. Nicolas Pinault a joint pour une réponse le ministre ivoirien de la Justice, Yenema Koulibaly.
Je ne pense pas qu'il y ait un retard. Vous savez que c'est une procédure qui concerne presque 90 personnes. Les juges ivoiriens, au sorti de la crise, dans un dénouement total, ont entrepris donc de mener cette procédure. Ils sont parvenus au bout de leurs investigations. Et aujourd'hui, grâce donc aux moyens financiers dégagés, car les assises exigent, vous le savez bien, beaucoup de moyens financiers pour la prise en charge des jurés, des membres de la cour d'assises. Grâce donc à l'appui du gouvernement, nous sommes aujourd'hui en état, 3 ans seulement, je pourrais dire, après la sortie de crise, de tenir un tel procès aux assises. Je ne crois donc pas qu'il y ait un retard quand on sait que depuis plusieurs années, notre pays n'a pas connu d'assises. Et nous renouons donc avec cette bonne pratique judiciaire depuis donc le début de l'année 2014 et les dossiers viennent au fur et à mesure.
Que répondez-vous à ceux qui estiment que ce procès est avant tout un procès politique de l'ancien régime ?
La justice ne juge pas des faits politiques en l'espèce. Il ne s'agit pas de délit politique, il s'agit d'un délit de droit commun. Il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'État. Je n'ai pas de doute sur l'équité qui devrait animer ce procès. Écoutez, si Simone Gbagbo a posé des faits de droit commun et que l'on la poursuit, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un procès politique.
Le procès actuel porte sur une certaine partie des faits, mais la Cour pénale internationale a également des accusations contre Simone Gbagbo. Est-ce que ce procès actuellement est incompatible avec un possible transfert par la suite, si condamnation il y a, de Mme Gbagbo vers la Haye ?
Nous avons déjà, au niveau de la justice ivoirienne, indiqué que Simone Gbagbo étant déjà en procédure, comme c'est le cas d'ailleurs pour cette audience qui va s'ouvrir incessamment, nous estimons que nous avons les aptitudes et les capacités de juger Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire pour les faits de crimes contre l'humanité et génocide qui lui sont reprochés. Les procédures sont en cours et nous souhaitons vivement que, à l'image de ce procès qui la concerne, que pour les autres procès, nous puissions la juger. Pour nous, la justice ivoirienne est compétente pour juger Simone Gbagbo pour les autres faits qui lui sont reprochés à l'occasion de la crise post-électorale.
Yenema Koulibaly, joint à Abidjan.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le doute après l'accord annoncé par le Nigeria avec Boko Haram. Y aura-t-il un cessez-le-feu ? Les collégiennes de Chibok seront-elles vraiment libérées ? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
La toute première conférence des survivants d'Ebola s'est tenue récemment à Kinema, dans l'est de la Sierra Leone, à l'initiative du ministère sierra-léonais de la Santé et des organisations humanitaires. Des survivants qui représentent une lueur d'espoir face à la terrible épidémie qui sévit en Afrique de l'Ouest, mais qui ont tout aussi besoin de soutien pour retrouver leur place au sein de la société, Jacques Aristide.
La musique retentit dans cette petite église de Kenema. L'ambiance est à la fête, on y chante, on y danse, et pour cause. Survivre Ebola mérite d'être célébré. 36 habitants ont remporté en effet la bataille contre la maladie. Le gouvernement sierra-léonais et les ONG engagées dans la lutte contre le virus Ebola demandent aux rescapés de partager leur expérience et contribuer à la campagne de prévention. Mais il leur faut tout d'abord surmonter une première difficulté qui est la stigmatisation. Matthew Dalling de l'UNICEF.
Les personnes guéries sont rejetées à leur retour dans leur communauté. Les gens leur demandent de partir. J'ai rencontré des survivants qui ne sont pas rentrés dans leur village. Nous voulons renverser cette situation afin de la mettre à contribution, car ils sont avant tout des héros.
Fatmata Feremoussou Sessé est infirmière. Elle avait contracté la maladie alors qu'elle soignait un patient. Elle veut aider les populations parce que, dit-elle, certains croient encore que l'Ebola n'existe pas.
There was a rumor that with the nurses they have given us huge amount of money.
Il y avait une rumeur selon laquelle le gouvernement nous payait, nous les infirmières, une énorme somme d'argent pour tuer les gens en leur injectant quelque chose.
Deda Mohamed Foula est technicien de laboratoire à l'hôpital de Kenema. Il a survécu Ebola, mais pas une bonne partie de sa famille. Il en est encore traumatisé, comme c'est le cas pour Jamila Jawara. Ses jumeaux, une fille et un garçon, ont été tués par la fièvre hémorragique.
It was June 17. I lost my two kids.
C'était le 17 juin dernier. Je prenais mes deux petits dans mes bras. Mon fils est parti en premier.
Pour Dr Margaret Harris, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, c'est bien d'avoir l'aide des rescapés de l'Ebola dans le combat contre la maladie, mais il ne faut pas, dit-elle, qu'ils se sentent contraints de le faire. Et d'ajouter qu'il est également important de prendre toutes les précautions nécessaires, d'autant que le monde médical ignore pour l'heure si les personnes guéries courent le risque de rechute.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Les Nations Unies aident 6 nations d'Afrique centrale à organiser des campagnes synchronisées de vaccination contre la poliomyélite après que le Cameroun a signalé un 5e cas de poliovirus sauvage sur son territoire. 4 cas similaires ont été également détectés au sud de ce pays, en Guinée équatoriale. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Lionel Gaïma.
À cause de ces situations, Charlotte Fatindiaye, représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun, préconise la vaccination de tous les enfants âgés de moins de 5 ans au Tchad, au Gabon, au Congo-Brazzaville et en République centrafricaine.
Le Cameroun fait partie des pays exportateurs et nous espérons qu'au sortir de cet assaut final, nous espérons que cette 8e campagne est la dernière, que c'est véritablement un assaut final, que tous les enfants en âge d'être vaccinés seront vaccinés.
Tous les hôpitaux d'Afrique centrale disposent des vaccins anti-polio depuis la première phase de la campagne organisée en septembre dernier. C'est le 31 octobre que doit commencer la deuxième phase, de nouveau Madame Fatindiaye.
Nous lançons aussi une campagne synchronisée pour tous les pays d'Afrique centrale. Tous les pays d'Afrique centrale ont démarré une campagne de vaccination pour que réellement on participe à l'initiative d'éradication.
L'OMS recommande aux ressortissants des pays affectés qui se rendent à l'étranger de voyager avec leur carnet de vaccination. Ce qui n'est pas toujours possible avec certains pays, comme la République centrafricaine, ravagée par la violence. Le ministre camerounais de la Santé, André Mamafouda, insiste sur la coopération des pays voisins.
L'engagement est pris par les États d'éradiquer la poliomyélite. Nous lançons dans le cadre de l'ensemble des pays de l'Afrique centrale une campagne synchronisée pour que nous puissions protéger nos enfants de moins de 5 ans de la poliomyélite. Et surtout, nous souhaitons que notre pays soit reclassé parce que jusque-là, nous sommes dans le groupe exportateur de la poliomyélite, mais nous allons vers son éradication.
L'Organisation mondiale de la santé a enregistré le 30 avril 68 cas de polio à travers le monde, soit 24 de plus par rapport à la même période l'année dernière. Le total était de 417 en 2013. L'Afghanistan, la Guinée équatoriale, l'Éthiopie, l'Irak, Israël et la Somalie continuent de poser un risque d'exportation du poliovirus sauvage en 2014. La propagation des virus a été expliquée ces dernières années par des attaques dans certains pays contre les agents de santé, le peu d'importance accordée aux campagnes de vaccination et la négligence de certaines familles. L'OMS a déclaré urgence internationale la lutte contre la polio qui risque dans les prochains mois d'effacer les progrès réalisés depuis presque 3 décennies.
Dans l'actualité sportive, une mise à jour sur la troisième journée de la Ligue des Champions qui a débuté ce soir sur la pelouse européenne, Tim.
Et oui, Gabi, ce qui était considéré comme le choc de la soirée, AS Rom Bayern Munich dans le groupe E, s'est mué en une promenade de santé pour les Bavarois qui menaient 5-0 aux dernières nouvelles.
Non, 5-0 tu as dit ?
5-0.
Alors ça, c'est un carton.
Voilà. Et match nul, ce match qui est terminé entre Manchester City en déplacement à Moscou contre le CSKA local, 2-2. Dans le groupe F, Barcelone devait réagir après sa défaite à Paris. Les Barcelonais reçoivent l'Ajax d'Amsterdam au Camp Nou et menaient par 2-0 aux dernières nouvelles.
Est-ce que Messi a marqué ?
La poêle, donc j'ai juste eu le temps de regarder le score et de monter ici.
Parce que Messi voudrait marquer 2 buts pour rejoindre Raoul. Il serait ex aequo avec Raoul comme le meilleur buteur de l'équipe, de l'histoire de l'équipe.
Alors on aura l'occasion de vérifier tout à l'heure.
Schalke... Alors pas de l'équipe de la Ligue.
Et voilà. Ouais. Donc dans le groupe G, il y a Chelsea qui est sans pression face au Slovène de Maribor. Chelsea menait par 3-0. Et puis il y a le match entre Schalke 04 et Sporting Portugal. Et un match en cours également. On en était à 1-0 quand je montais ici en studio. Dans le groupe H, l'autre club portugais, le FC Porto, joue contre l'Atlético Bilbao. Batté Borisov contre Shakhtar Donetsk. Et dans ce match, le Shakhtar en avance 4-0.
Et laissons le vieux continent pour parler de l'Afrique. Changement de sélectionneur au Niger.
Oui, vous avez entendu hier sur nos antennes le partant, Gernot Rohr, après la lourde défaite 3-0 en Zambie du Ménin. C'est son adjoint Cheikh Omar Diabaté qui assure l'intérim. Nicolas Pino l'a joint à Niamey.
En fait, nous sommes toujours dans la course parce qu'il nous reste 2 matchs et si on arrive à gagner nos 2 matchs qui suivent et que les autres font un faux pas, moi je pense qu'on peut être qualifié. Donc pour le moment, on n'a pas baissé les bras. Nous allons continuer le travail qui a été abattu par mon prédécesseur. Et en fonction de cela, on va mettre notre stagiaire en place pour voir si toutefois on peut emmener les 6 points qui nous restent.
Qu'est-ce que vous pensez du départ de Gernot Rohr à mi-parcours de ces éliminatoires ?
En fait, il a décidé de laisser tomber parce qu'il pense que les chances sont minimes, qu'au dernier moment, ça va être un peu difficile pour nous de se qualifier. Moi, je pense qu'il a ses raisons d'aller et nous aussi, nous sommes là pour assurer son intérim. On va faire le maximum de nos possibles pour que vraiment nous puissions remporter l'avant-dernier match qui nous reste. Tout va se jouer à la 5e journée. Moi, je pense que si on est déterminé et on arrive à former un bloc autour de nous-mêmes, nous pouvons avoir une victoire, pourquoi pas.
Voilà, le sélectionneur du Niger, Cheikh Omar Diabaté, que vous entendiez au micro de Nicolas Pino.
Autre CAN féminine cette fois en Namibie.
Et oui, les demi-finales se jouent demain. 2 duels, l'un francophone entre l'Afrique, les Camerounaises face aux Ivoiriennes et l'autre anglophone entre l'Afrique du Sud et le Nigeria.
C'est presque la fin de cette édition. Le dernier mot sera, comme d'habitude, à Roger Montou, notre pilote, ou Monsieur Musique, comme j'aime à l'appeler. Alors, tu nous réserves quoi ?
Salut Gabi ! Le célèbre chanteur congolais Koffi Olomidé a été arrêté mardi à Kinshasa pour s'être fait appeler sur des banderoles « Vieux Ebola », rappelant les virus qui a tué 4500 personnes en Afrique de l'Ouest et 49 en République démocratique du Congo. Nous l'écoutons ce soir dans la chanson « Insecticide » en featuring avec l'artiste Ferregola. Gabi, d'après les directeurs de l'information et de la communication de la police, M. Pierrot Moinapoutou, Koffi Olomidé est en train d'être verbalisé au commissariat car il s'est présenté comme vieux Ebola alors que tout le monde est en train de combattre cette épidémie. C'est une immoralité, c'est un contre-message qu'il est en train de diffuser à Martigny, le colonel Pierrot Moinapoutou. Rappelons que l'artiste Koffi Olomidé a déjà eu plusieurs démêlés avec la justice. Il avait été mis en examen en février 2012 par la justice française pour les viols et les séquestrations de 3 ex-danseuses de son groupe appelé Quartier Latin International. Il avait quitté la France avant la décision du juge des libertés sur son éventuelle incarcération.
Roger Muntou sera en votre compagnie à 20h temps universel comme chaque jour. C'est la fin de cette édition, Timothée.
Eh oui, bonne soirée à tous.
Torturer ngai yo lukelinga nini est-ce que na courir.